Julia Kristeva, bonjour.
Bonsoir, monsieur.
Merci d'être parmi nous au salon Albert Mola pour une conversation autour de votre dernier roman, L'horloge enchantée. C'est le sixième que vous publiez aux éditions Fayard. Je remercie vivement Denis Mola et toute son équipe de m'avoir sollicité pour dialoguer avec vous. Je vais bien évidemment m'appliquer à ne pas les décevoir, ni à ennuyer l'assistance très nombreuse qui est venue vous écouter. Et je m'efforcerai naturellement, je vous le promets, de vous mettre en position de parler de votre livre, comme vous l'entendez, et de dire au public bordelais ce qui vous tient à cœur à son propos. Chère Julia Kristeva, depuis 1969, date à laquelle vous avez publié « Sémiotiquer, recherche pour une sémanalyse », vous êtes l'auteur d'une quarantaine de livres. Sémiologue, théoricienne de la littérature, professeur des universités, docteur honoris causa d'un nombre impressionnant d'établissements universitaires, psychanalyste, vous êtes membre de la Société psychanalytique de Paris depuis 1987, vous avez reçu de très nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix Holberg, dont vous avez été la première lauréate en 2004. Cette année, c'était le 18 février, le président de la République vous a élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur. En ce centenaire de la naissance de Roland Barthes, il est tentant, pour brosser un portrait de vous et souligner l'importance de vos travaux sur la scène de la pensée française, de se référer au texte que Barthes a publié en mai 1970 dans le numéro 94 de la Quinzaine littéraire, dans lequel il soulignait combien et comment, je cite, « vous changiez la place des choses et que, dans votre discours, la science était écriture, le signe était dialogique et son fondement destructeur ». Le 25 avril dernier, lors du dernier salon du livre de Paris, le physicien Étienne Klein a eu l'idée de recourir à ce rappel pour entamer pour un entretien que vous lui avez accordé sur France Culture. En ce qui me concerne, je voudrais brièvement ce soir insister sur ce qui, à mon avis, caractérise votre apport décisif à la pensée française. Vous nous avez apporté un savoir nouveau, ce qui n'avait pas échappé à Barthes. Et vous nous l'avez apporté de l'Est, de cet Est dans lequel l'Europe ne peut pas être et ne sera jamais l'Europe, car sans lui, il lui manquerait une part d'elle-même. J'ai par exemple en vue le dialogisme que vous nous avez fait découvrir dans, par et avec Mihai Bakhtin, et qui est à l'origine de la notion d'intertextualité que vous avez été la première à énoncer. Peut-être est-ce parce que vous venez des confins orientaux de l'Europe, lesquels se situaient dans les années 60 de l'autre côté d'un sinistre rideau dit de fer, qui coupait dans la chair même du continent, que tout au long de votre parcours, vous avez pris soin de nourrir votre réflexion et de nous inviter à faire de même, en prêtant une attention soutenue aux travaux du grand linguiste Émile Benveniste, que certes, on célèbre aujourd'hui, mais qu'on lit moins qu'auparavant, comme s'il avait désormais à subir l'épreuve d'un certain purgatoire. Je songe enfin à l'intérêt que vous portez aux conditions dans lesquelles le sujet humain est agi et informé par ses pulsions, avant de pouvoir les inscrire dans des signes et dans la langue, n'hésitant pas à souligner ce que vous ont apporté, par exemple, les travaux du Hongrois Ivan Fornagy, ayant trait au double encodage émotif et intellectuel de la parole. J'ajouterai que si le XXe siècle a été celui des hommes sans qualité et des foules anonymes, que l'histoire a ravalé et réduit au rang de consommateurs, que l'histoire a bien souvent broyé aussi, en les réifiant comme jamais auparavant dans l'aliénation et le sang, vous êtes de ces contemporaines et de ces contemporains peu nombreux qui cherchent à s'évader des enfermements identitaires. Et ce, parce que vous êtes une championne de l'individuation. Vous empruntez volontiers au théologien Scott le souci d'examiner les êtres et les choses en fonction de leur essaïté, c'est-à-dire du caractère singulier qui les rend irréductibles aux autres et par lequel ils s'en distinguent. Je terminerai ce propos liminaire en posant que votre désir de France est à bien des égards celui des Lumières. Ce n'est pas du tout, en effet, une France morose, une France moisie, si vous me permettez, que vous aimez et que vous exaltez. C'est au contraire une France capable de se projeter dans le long terme, d'une France qui a la capacité de renaître, dont vous faites l'éloge. Je suis donc particulièrement honoré d'avoir à dialoguer avec vous ce soir à propos de cet ouvrage, L'horloge enchantée. Votre roman n'est pas un roman historique, même si vous prenez soin de tracer la trajectoire de votre héroïne. Elle s'appelle Nivi, Nivi de Lille. Vous tracez sa trajectoire à l'évocation du règne de Louis XV, que vous regardez, son règne, comme si vous y aviez repéré un point sensible à partir duquel il serait plus aisé de cerner et d'analyser les contradictions et les tensions qui travaillent notre époque. Et il me semble que ce point sensible, vous le matérialisez avec cette merveilleuse pendule, cette horloge enchantée qui a été conçue par Claude Siméon Passemant. Votre héroïne, Nivi, en hébreu, Nivi signifie ma parole. Je pense qu'il y a de votre part une intention. Vous nous faites signe en prêtant ce nom à votre héroïne.
C'est la première question.
Oui.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil et de cette synthèse qui m'honore et qui nous interpelle, parce que vous avez évoqué énormément de pistes dans mon travail, dans mes écrits. Et aussi, je pense, des questions qui peuvent intéresser les amis présents ici. Merci à les Libéri Mola de nous réunir en ces temps d'été. Et merci à toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de se réunir ici plutôt que d'aller respirer l'été qui vient, même s'il fait plus désagréable dehors à cause de la chaleur qu'ici, dans cette fraîcheur et avec toutes ces... cette invitation à la réflexion à la fois politique, esthétique et j'espère spirituelle que vous avez esquissée. Je vais essayer de répondre à ce que vous avez mis en friche, mais je ne peux pas ne pas évoquer l'émotion que j'ai de parler devant des Bordelais. Parce que vous avez évoqué l'article de Roland Barthes qui était le premier texte qui m'a été consacré dans la quinzaine littéraire et qui s'intitule « L'étrangère », où il me gratifie beaucoup comme il était le seul parmi les universitaires que j'ai connus à se reconnaître dans ses étudiants et à les favoriser, à leur dire que ce n'est pas lui qui leur apprend des choses mais que c'est lui qui apprend d'eux. Etc. Et c'est ce qu'il me disait. Donc, j'étais ravie de vous entendre évoquer cela. Mais cela m'a renvoyée à mon arrivée en France et au fait qu'avant d'être accueillie par Roland de cette manière aussi chaleureuse, j'ai été accueillie par une famille bordelaise, qui est la famille de mon mari, évidemment, la famille des Joyaux, avec ma belle-mère, mon beau-père et toutes les sœurs et les neveux de Philippe Solers, dont je vois quelques représentants ici. Et c'est quelque chose de très émouvant parce que c'est cette France-là, extrêmement classique, extrêmement fière de son passé, de ses origines, de sa culture, mais aussi très accueillante, que cette famille m'a signifiée. Et que c'est l'image de cette France que j'essaye de palper dans une autre dimension qui est plus officielle et qui est cette France des Lumières que je mets en scène dans ce roman. Je tiens à le signaler parce que vous avez dit que ce n'est pas un roman historique, mais j'ai eu le sentiment et peut-être l'obligation à un certain moment de ma vie qui s'approche de... sa deuxième moitié, ou sa, presque même ce dernier tiers, en avance en âge, j'ai été conduite à me dire qu'il faut que je dise mes dettes vis-à-vis de ce pays qui m'a accueillie. Et que je l'ai fait d'une certaine façon en parlant des écrivains de Proust, d'Antoine de La Salle, le premier romancier, avant Diderot, de Marguerite Duras, de Nathalie Sarraute, etc., etc. Mais que ce serait plus direct si j'installais ce roman dans la cour de France, et notamment dans la cour de Louis XV, quelques années avant la Révolution française, une dizaine, trois décennies avant, où le pays vit des crises qui sont comparables à ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a l'affaire Loos, c'est-à-dire la dévaluation, la première crise monétaire. On tire de l'argent virtuel, les gens sont ruinés, et ça a conduit à un mélange de classes. La bourgeoisie devient plus agressive, l'aristocratie commence à avoir peur, les gens du peuple se révoltent. Après, il va y avoir ce qu'on appelle la marche rouge. Les gens se révoltent contre la cour qui est accusée de pédophilie et d'autres excès érotiques. Ça nous fait penser au scandale qui secoue la presse aujourd'hui et dans lequel des politiques sont impliquées dans tous les pays du monde, mais en France aussi, etc. Et néanmoins, dans cette cour de France, qui à ce moment-là, qui a son sommet Louis XV, ce roi qu'on dit faible et qu'il a été, ce roi libertin, et avec la Pompadour à côté, etc., nous avons aussi la présence des grands représentants de l'encyclopédie. Madame de Pompadour s'est fait photographier avec l'encyclopédie à ses côtés. Diderot n'a pas été reçu, mais Voltaire, oui. Il y a une correspondance entre Madame de Pompadour et Voltaire. Ce sont des choses qu'on connaît un peu, pas assez dans les écoles aujourd'hui. On sait bien combien les lumières ne sont pas assez divulguées, assez enseignées, et pas assez dans, non pas dans des clichés, mais dans des romans, dans des histoires, dans quelque chose d'incarné et de vivant. Eh bien, j'ai choisi, dans ce bouillonnement d'une France secouée qui, à la veille de la Révolution, de représenter cet esprit par, non pas par un des grands qu'on connaît, mais par un petit artisan qui s'appelle Claude-Simeon Passement, et qui a produit une horloge qu'on peut encore voir aujourd'hui, qui se trouve dans les cabinets de Louis XV, et qui a la forme d'un automate Android, parce qu'il a une tête, elle a l'horloge, une tête dans laquelle sont disposées toutes les planètes du système solaire, qui sont programmées avec leurs éclipses. Dans la poitrine, il y a l'horloge, avec les heures, les minutes, les secondes et les tierces. Et puis il y a les fameuses jambes Louis XV, et une grosse pendule au milieu, qui a quelque chose d'obscène quand on le regarde de près, et qui fait image de ce qui se passe dans les coulisses. Ça, on le sait, on l'a dit, ce n'est pas inutile de le rappeler, mais ce qu'on dit moins, c'est que Louis XV était en effet un grand protecteur des sciences. Nous avons, nous, la République, nous, les humanistes, beaucoup ciblé les abus de la religion, mais on donne souvent une image un peu édulcorée de la royauté, où on oublie que certains de ses représentants ont été des protecteurs des sciences. Et récemment, il y a eu heureusement une exposition à Versailles qui a montré cet aspect du pouvoir royal. Donc j'ai voulu synthétiser cette image d'une France vivante qui était dans son esprit en train de forger l'universel des valeurs à travers des hommes obscurs, à travers une avancée dans les sciences astronomiques, dans les sciences de l'esprit aussi, dans les sciences techniques, mécaniques, que des gens simples illustraient, et que ce bouillonnement était loin d'être défaitiste. Ils étaient en train de penser à l'avenir, quelque déprimés, quelque angoissés qu'ils soient, La preuve en est que ce monsieur, Claude Simeon Passement, que personne ne connaît, et j'ai dû fouiller dans les archives pour retrouver un peu l'histoire et en faire un personnage, il a programmé sa pendule jusqu'à l'an 9999. Et cette éternité qu'il visait, cette certitude que leur mémoire allait se prolonger au-delà du temps et des secousses politiques, m'a paru extrêmement impressionnante. Et j'ai voulu que les Français d'aujourd'hui se souviennent de cela et qu'ils les aient, qu'on ait cette endurance et cette espérance. Ce n'est pas un enchantement au sens romantique du terme. C'est le souci de travailler pour que cette longévité soit la nôtre. Donc c'est ce souci de la minutie, de l'artisanat, du souci de détail qui m'a animée aussi quand j'ai essayé de dresser les personnages en question. Ce qui est très intéressant, c'est que on attendait à Versailles, parce que j'ai travaillé beaucoup avec les gens qui s'occupent des cabinets du roi, on a travaillé beaucoup sur l'horloge, sur la technique de l'horloge. Ils avaient beaucoup, très peur qu'au moment du passage en l'an 2000, ça allait s'arrêter ou il allait y avoir une histoire, mais pas du tout. Tout s'est très bien passé. Il suffit simplement de tourner une manivelle parce que ce monsieur avait très bien concocté sa machine. Par contre, le mépris de l'humain, à mon sens, se manifeste en ceci, qu'on ne savait rien sur le personnage. Sur le monsieur qui a fait cette pendule. Et j'ai dû fouiller dans ce qu'on appelle le minutier, c'est-à-dire les archives des notaires de Paris, où on fait le compte de ce que vous laissez à votre mort comme objet, comme compte en banque éventuellement, ou lettres ou livres. Et à partir de là, qui est une espèce de dépôt d'objets, j'ai pu reconstituer un peu l'histoire de ce personnage qui a pu jouer un rôle important dans des débats philosophiques autour de Louis XV entre les Newtoniens, les Cartésiens, les Leibnizien, donc c'était un haut lieu de pensée philosophique. Et last but not least, dans ce bouillonnement d'esprit, il y a la grande Émilie de Châtelet, qui pour nous féministes est la première féministe, parce que en même temps que Condorcet, elle écrit un livre sur les droits des femmes et des citoyennes. Et notre projet maintenant est de la faire entrer au Panthéon, peut-être un jour, avec Olympe de Gouges ou des personnalités comme ça. Mais sur le plan scientifique, je pense que nous en parlerons tout à l'heure, elle est absolument éblouissante parce que, après avoir écrit un livre sur le bonheur, qui, comme chacun sait, était une idée rare, cette ancienne maîtresse de Voltaire, qui est devenue une femme très libre, elle a eu un enfant à 40 ans et elle est morte très rapidement, mais donc elle est victime de sa passion. Elle a écrit aussi un livre sur une substance qu'elle appelle le feu et qui a été extrêmement difficile à comprendre par les académiciens de l'époque. Il s'avère aujourd'hui que c'est ce qu'on appelle la matière noire. Donc elle a une prémonition de quelque chose de physique extrêmement important qu'on ne pouvait pas imaginer à l'époque et qui représente 96% de l'univers. Et lorsque nous, ceux qui sommes visibles, ceux qui participons de la partie visible de l'univers, ne sommes que 4%. Donc cette femme géniale fait partie donc de ce bouillonnement de l'esprit français que j'essaie de mettre en évidence dans le livre. Donc c'est une manière de donner aux Français ce qui, moi, petite fille venant de Bulgarie, m'a fascinée dans votre pays, qu'on oublie souvent. Et je me disais, ben, il est temps de dire dans cette Europe pour laquelle nous avons beaucoup de doutes et d'amertume, mais qui est peut-être moins mal que ce qu'on nous propose ailleurs, eh bien, nous pouvons peut-être insister sur cette culture. D'abord, nous l'approprier, nous les Français, et puis la montrer aux autres comme partie intégrante de ce que l'Europe a fait de beau et de prometteur. Et à côté de cela, puisque vous avez raison de dire que ce n'est pas un roman historique, il y a une héroïne qui me représente, qui s'appelle Nivi, que c'est un mot qui en hébreu veut dire ma parole, et qui essaye de survivre à différentes épreuves de sa vie, qui pour moi représentent les femmes d'aujourd'hui, qui ont beaucoup de soucis, qui ont des difficultés avec leurs amants, avec leur famille, avec leurs enfants, avec leur boulot, mais qui tiennent debout. Et cette capacité de tenir debout vient du fait qu'elles parviennent à partager par la parole et par leur travail, qui est une forme de parole, ce qu'elles vivent et comment elles se redressent quand elles traversent une épreuve. Donc cette capacité des femmes à tenir debout en partageant, en disant, en communiquant, mais pas au sens de la com, mais au sens de la passion, qui m'a animée pour créer ce personnage de Nivi. Eh bien, cette Nivi me représente un peu parce qu'elle est psychanalyste, parce qu'on a un enfant qui a des difficultés, mais qui, à chaque fois, quand il sort de l'hôpital, pense à cette horloge qu'ils ont visitée ensemble. Il veut apprendre tout, ce garçon qui s'appelle Stan, de cette horloge et du bonhomme qui a construit cette horloge. Il veut qu'ils y aillent. Il est dans une férocité, une énergie incroyable de revivre et de survivre, comme je voudrais que la France le soit. Et en même temps, elle est un peu fofolle, la Nivi, parce qu'elle s'identifie avec tout ce qu'elle aime. Mais elle pense à cette horloge, mais elle vit, elle s'identifie avec le savant ou l'horloger. Elle pense à Madame Pompadour, elle nous fait vivre Madame Pompadour. Elle pense à Émilie du Châtelet, elle vit avec Émilie du Châtelet. Et ça donne dans le roman quelque chose qui me semble être assez spécifique du temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, à savoir une fragmentation qu'on n'a jamais vécue. Nous sommes capables, grâce à la communication aussi et grâce à la complexité de la vie, de vivre avec les grottes chevet, avec les étoiles, avec tel personnage qu'on voit à la télé, avec tel ancêtre, avec tel coin du monde. Donc cette fragmentation qui pourrait la rendre complètement malade, eh bien, par sa capacité d'en parler et d'en parler à son amant, d'échanger avec lui, eh bien, elle en fait une totalité, mais une totalité kaléidoscopique, une totalité romanesque. C'est sa fiction et c'est ça qui la tient debout. Alors ça nous renvoie à la notion de roman. Je vais terminer là-dessus pour cette première partie de notre échange. Moi, je suis arrivée en France avec une bourse qui m'a été donnée par le général de Gaulle, qui donnait des bourses aux jeunes des pays de l'Est, pour terminer ma thèse sur le nouveau roman français. Et en arrivant en France, cette bourse était donnée par le général de Gaulle à des jeunes qui parlaient le français, et les gouvernements communistes les donnaient à des vieux qui ne parlaient pas, et donc personne ne partait. Mais mon directeur de thèse m'a envoyé à l'ambassade pendant que le directeur de l'institut était parti à Moscou, donc l'attaché culturel a dit que j'avais les qualités, donc je suis partie avant qu'on m'arrête et m'empêche de partir. Donc je commence à travailler sur le roman, le nouveau roman français. Je vous rappelle que ce qu'on appelle le nouveau roman français, maintenant on n'en parle plus tellement parce qu'on est dans l'autofiction, on nous dit comment un père a violé sa fille et comment je souffre et comment tout c'est formidable. Ce n'était pas du tout ça à l'époque. Le nouveau roman est un travail sur la structure du roman qui épure souvent le roman avec des personnages assez peu romantiques, mais avec un souci de comprendre comment fonctionne le roman. Des noms comme Marguerite Duras ou Nathalie Sarraute ou Alain Rome-Grillet ou Butor vous diront quelque chose dans ce style-là. Et donc, c'était au-dessus de mes forces de faire une thèse sur ce roman qui était déjà une déconstruction du roman classique. Je me pose des questions et j'en parle à Aragon, qui avait eu la gentillesse de me recevoir comme jeune venant de l'Est. Et il m'a dit, mais il faut travailler sur l'origine du roman qu'il avait un peu prospecté et sur lequel l'origine il s'était arrêté lui-même, c'est-à-dire avant Rabelais, Antoine de La Salle, qui est un personnage que personne ne connaît parce que ses romans font partie de l'ancien français presque, mais dans lequel livre, lequel roman, on voit comment se compose le roman, comment le roman arrive à jour. Et c'est en mélangeant différents types de discours qui existaient avant le roman, en faisant un kaléidoscope, une polyphonie entre la poésie courtoise, où on parle de l'amour, les chroniques géographiques et historiques, c'est l'histoire du siècle, on parle des voyages dans différents coins du monde, et la théologie. Et donc, on mélange, et donc chez Antoine de La Salle, on voit ces différents types de discours côte à côte se mélanger. Et c'est cette recomposition du roman qui m'a toujours fascinée et qui me semble être sa force. Le roman n'est pas seulement l'histoire d'un amour, ça l'est aussi, c'est l'histoire d'une époque et c'est l'histoire de la recomposition de la pensée. Et c'est cette polyphonie qu'on trouve dans les grands romans, ceux de Proust par exemple. Vous disiez que je m'intéresse au temps. En effet, le temps que nous vivons et qui est le temps du passé, qui peut être aussi le temps de l'avenir, le temps du cosmos, le temps de ce qui va être après notre mort, la vie des étoiles et des galaxies. Cette temporalité-là, on la trouve d'une autre façon dans la recherche du temps perdu de Proust. Mais le roman, comme composition de différents types de discours, y compris la philosophie, y compris la théologie, on la trouve chez Dostoïevski. Donc tous les grands romans sont des polyphonies de différents types de discours dont dispose l'humanité à un moment donné, qu'on essaye de malaxer de manière à rendre cela accessible à ce qu'on appelle les gens épris de culture. Donc pas forcément ceux qui avalent des images et qui s'endorment devant la télévision en se demandant comment on doit être habillé demain parce que c'est la mode et quel est le slogan politically correct pour impressionner à la cafétéria, mais ceux qui essayent de recomposer leurs pensées et de se tenir vivants dans leur esprit en connexion avec ce qui s'élabore dans la vie amoureuse, dans les sciences, dans la communication aussi, dans la politique. Donc toute cette espèce d'effervescence des discours, le roman en jongle. C'est ça que Aragon a voulu me transmettre et ça m'a toujours habité. C'est ce que Tel Quel essayait de faire en mettant au premier plan de l'intérêt des jeunes, des écrivains comme Joyce, comme Bataille, comme Proust aussi, etc. Et c'est ce que, d'une certaine manière, la psychanalyste que je suis essaye de faire en demandant à mes patients qui viennent me dire parce qu'ils souffrent de mal à la tête ou de mal à l'estomac, mais on trouve derrière cela une maladie d'amour, de me raconter leurs histoires. Et quand ils se mettent à raconter leurs histoires, ils me font leur roman. Et là, on entend des histoires d'amour, mais aussi des histoires d'entreprise, des histoires des familles, des histoires de religion. Et c'est cette espèce de polyphonie qu'à ma façon, j'essayais de malaxer dans l'horloge à chanter.
Et voilà. Vous y êtes parvenue, madame. Si vous me permettez, vous avez avec raison souligné que cet horloger, ingénieur de Louis XV, était un savant artisan dont on sait peu de choses. On connaît son œuvre, mais on connaît peu de choses de cet homme. Et il est exact que dans votre roman, il y a deux figures qui sont en quelque sorte l'incarnation même des Lumières. C'est cet homme et puis Émilie du Châtelet. Et il me semble que, à travers ces deux personnages historiques, vous tramez une double attitude. À la fois une attitude, je dirais, prométhéenne devant le temps et l'histoire. Cet horloger imagine et fabrique une pendule qui va pouvoir fonctionner 9999 ans. C'est-à-dire, je suis tenté de percevoir cet acte et cette invention comme une confiance inégalée dans le futur, je ne dis pas dans l'avenir, mais dans le futur. C'est-à-dire que l'infini est posé d'entrée comme étant intelligible. L'infini n'est pas un espace dans lequel nous pouvons nous perdre. Et il n'échappe pas à votre assistance le fait que, vraisemblablement, ce n'est pas un hasard que cette pendule ait été conçue pour fonctionner 9999 ans. Le chiffre lui-même connote la Kabbale. Donc il y a la double affirmation d'une quête spirituelle et en même temps de cette volonté prométhéenne, non pas de dompter la nature, mais de la comprendre. Et nous trouvons exactement la même chose chez Émilie du Châtelet, qui est à la fois celle qui lit Leibniz et traduit Leibniz et essaie non pas de concilier, mais de faire dialoguer Leibniz avec Newton. C'est-à-dire, nous sommes véritablement dans une intellection du monde qui pose la science comme étant l'instrument de notre traversée de l'existence et qui n'évacue en rien les questions métaphysiques. Et il me semble que votre personnage, Nivi, qui a un double, si vous me permettez, un double contrasté, c'est Marianne. Je crois que ce n'est pas un hasard que le patronyme de Marianne soit Baruch.
Oui.
C'est-à-dire donc, évidemment, le prénom que portait Spinoza. Je crois que vraisemblablement, vous l'avez fait volontairement.
Oui.
Il y a là un dialogue, c'est-à-dire que le personnage principal, votre héroïne, Nivi, ma parole en hébreu, dialogue en quelque sorte avec Marianne, qui est la bien-aimée.
Tout à fait. Oui, il y a beaucoup de choses, comme vous le voyez. Souvent, je me dis, mais c'est absolument absurde ce que je fais de venir commenter mes romans. Il faut que les gens les lisent. Et quand je me mets à commenter, je n'en finis plus. Et ça leur donne le tournis, ça les déçoit plutôt que d'aller... où ça leur fait peur. Mais donc, je ne vais pas développer toutes les pistes que vous donnez pour que nos amis ici présents ne pensent pas qu'ils vont se noyer dans cette multitude de références. On peut les lire aussi simplement comme une manière qu'a Nivi de se projeter dans différentes rencontres dans sa vie avec l'horloge, avec Madame Pompadour, avec le personnage d'Émilie de Châtelet, etc. C'est déjà beaucoup. Mais je vais reprendre une idée que vous me lancez et qui reprend d'ailleurs une suggestion que vous aviez dans votre première question. C'est la question de l'infini. Alors, j'ai dit que je me suis intéressée au temps parce qu'avec avec l'âge, la proximité de la mort et les questions de l'au-delà, l'horloge sonne à la fois de manière dramatique et de manière à nous inviter à penser à ce qui reste. Et le chiffre 9999 dans la Kabbale signifie à la fois la génération, l'amour, la prolongation donc à l'infini de la vie, et en même temps l'apocalypse, la catastrophe. Donc c'est cette coprésence de l'infini et du néant qui est un arrière-plan de cette horloge enchantée. Il y a cela aussi, mais il y a aussi le fait que les lumières, telles que j'essaye de les montrer, de les suggérer à travers l'artisan d'une part et Émilie de Châtelet de l'autre, ont donné différentes modalités que nous avons, nous les humains, à traiter l'infini, à gérer l'infini. Passement, cet horloger, qui est le scientifique, technique, il est possible de calculer l'infini et on peut l'enfermer dans une horloge. Je vous fais jusqu'à présent 9999 à 4 chiffres, mais un jour je peux le faire à 5 chiffres et à 10 et on peut le numériser. Et aujourd'hui, un de mes correspondants américain me montre que le propriétaire d'Amazon qui s'appelle
Jeff Bezos,
patronne la création d'une pendule au Texas qui va durer 10 000 ans, mais qui est énorme. Notre horloge à Versailles a 2,26 m et sa pendule à 60 m, avec tous les matériaux inoxydables, etc., qui va être enterré dans les montagnes du Texas, pour qu'un jour, s'il y a des extraterrestres, ils rencontrent notre capacité de maîtriser l'infini. Donc, il y a dans les Lumières françaises une capacité de penser avec la science qu'on peut maîtriser l'infini. Et vous entendez que c'est un débat avec le divin. On ne dit pas que Dieu est mort, peut-être, mais il y a de l'infini qui nous dépasse et on peut le maîtriser. L'humain se confronte au divin sous la forme de calculer l'infini. L'autre vision, qui est tout aussi des lumières, mais beaucoup plus complexe et qui tient aussi avec le tient compte du néant, c'est celle de Nabilie de Châtelet. Et c'est l'infini passion, je meurs de l'infini amour. Voltaire m'abandonne, je deviens l'épouse d'un jeune poète et de Saint-Lambert, qui est un jeune aristocrate. Et être mère à 43 ans, c'est évidemment risqué, surtout à l'époque. Donc, elle se néantise dans son amour. Mais en même temps, en pensant l'infini, non pas de la manière cartésienne, mais d'une manière leibnizienne, que je ne développe pas pour ne pas vous affoler, il n'y a pas ça dans le livre, ce sont simplement des allusions, elle est en train d'inventer cette matière noire, cet infini qui n'est pas visible, qui n'est pas représentable, mais qui est une matière non étendue. C'est difficile à penser. Qu'est-ce que c'est une matière qui n'est pas étendue ? C'est des trous noirs. Les scientifiques se posent aujourd'hui des questions, mais on a besoin de calculer avec cette matière et l'énergie sombre pour penser ce qui se passe dans l'infinie expansion de l'univers. Donc, cette capacité de donner des modèles créatifs et d'innover sans arrêt, non pas pour se soumettre à un divin qui serait souverain, mais pour développer la souveraineté de l'esprit humain, y compris jusqu'à l'impensable. Et qu'une femme ait fait ça m'a paru extrêmement important, et j'ai voulu qu'il y ait une existence romanesque de cette aventure. Ce qui est extrêmement touchant, bouleversant, et ce que je pense nous devons mettre dans la balance aujourd'hui, quand le retour d'un religieux dogmatique nous demande de nous soumettre à des dogmes, à de l'infini qui coupe les têtes, qui emprisonne les femmes et qui se présente comme une issue possible de l'humanité. Nous avons raison de nous opposer à ces djihadistes, à ces intégristes, à ces fanatiques. Mais parfois, j'ai l'impression qu'en nous opposant, nous ne leur proposons comme antithèse qu'une culture matérialiste. Et que ce besoin de spiritualité, nous l'avons. Nous l'avons poussé, y compris dans le temps des Lumières, de manière extrêmement hardie, précise avec passement, romantique et ouvrant vers la matière noire avec Émilie. D'autres possibilités de penser l'infini sont possibles. Mais pourquoi nous n'osons pas développer cette vision de notre tradition, de notre manière de penser divin, vous pouvez le mettre avec tous les guillemets, qui est un héritage du gréco-judéo-christianisme, à condition de le prendre au sérieux et non de le considérer simplement comme un carcan qui brime la pensée, ce qu'il est aussi, mais qui a aussi des potentialités. Je vous donne deux exemples pour vous montrer ma position que j'appellerais dialectique vis-à-vis du religieux. La première, c'est mon maître benveniste, dont vous avez parlé tout à l'heure. Parmi les gens qui m'ont accueilli avec beaucoup de chaleur à Paris, ma famille Joyot, Roland et mon maître benveniste. Benveniste était un professeur de linguistique comparée. Il est d'origine juive, son frère était exterminé à Auschwitz, il a réussi à se protéger en Suisse, et c'est un spécialiste de langue indo-européenne. Il était professeur au Collège de France. On a créé ensemble l'Association internationale de sémiologie, où on a embarqué des gens des pays de l'Est qui considéraient qu'il n'y a pas que le marxisme qui rend compte de la vie humaine, mais aussi le langage, la logique et toute la vie faite de signes et de significations. C'était la sémiologie. Je vous laisse cette dimension. Il est tombé malade parce que il a eu un vaccin contre la grippe. Il est tombé dans le coma. On l'a pas bien soigné. Il est resté aphasique pendant une dizaine d'années. et on était quelques étudiants rares à le visiter. Et vers la dernière visite qu'il a eue, parce qu'il communiquait avec des gestes, je raconte ça dans ma préface de ses dernières leçons qui a été publiée au Seuil l'année dernière, il se met à écrire quelque chose sur ma poitrine. Il me disait, mais peut-être c'est une forme de démence sénile, déjà, c'est monsieur de 80 ans et plus, qu'est-ce qu'il veut dire? Je lui demande, je donne un papier, il m'écrit Théo. Théo comme Dieu. Et j'étais très bouleversée, je demandais à son neurologue, est-ce que ça veut dire quelque chose? Comment il interprète? Il dit, mais non, c'est peut-être juste un graffiti. Moi, j'ai toujours pensé, compte tenu de ses derniers livres et sa vision du langage, à savoir que pour lui, la transcendance, ce l'être humain, est immanente, elle est dans le langage. Et que le langage est infini parce que c'est une créativité en dialogue avec les autres. Est infini mon dialogue avec vous, mais un dialogue qui est fait par des signes et par une incarnation sensorielle dans les signes. C'est en gros ce qu'il dit dans ses dernières leçons sur le langage. L'infini recréation du langage dans la rencontre entre deux personnes. Et quand il m'écrit sur la poitrine Théo, je finis par me dire que c'est peut-être ce dialogue avec l'autre qui est pas seulement amoureux au sens érotique du terme, mais au sens de l'affection, de la passion et de l'infinie construction du sens entre nous, c'est ça qu'il a voulu me transmettre. C'est cette divinité-là. Ce n'est pas loin de ce que les Lumières essayent de nous dire. Dieu est peut-être mort, mais ça ne veut pas dire que l'infini n'existe pas. Vous allez le recréer par l'infinie créativité, en mathématiques, en physique, en langage, tant que vous êtes dans le lien autrui et que ce lien produit du sens, il y a une expansion à l'infini du sens. Et c'est ça que vous devez transmettre. Donc, c'est forte de cette perception qui est très romanesque et que les romans transmettent, parce que qu'est-ce que nous faisons dans des romans? Nous réinventons des histoires singulières qui moulinent une expansion du sens à l'infini, microscopique, mais infini quand même. Forte de cela, j'ai accepté, et c'est la deuxième histoire que je voulais vous raconter, à part celle de Benveniste, j'ai accepté l'invitation de pape Benoît XVI, il y a 2 ans, qui, dans les rencontres interreligieuses à Assise, a invité pour la première fois des non-croyants. Et j'étais une femme dans le groupe des non-croyants qui participions à cette rencontre. Et j'ai présenté là 10 principes pour l'humanisme du 21e siècle qui essayent de dire que, pour ne parler que de notre tradition grecque, juive et chrétienne, nous sommes des héritiers des corpus religieux grecs, juifs, chrétiens, et que la façon que nous avons de nous les approprier, de les apprivoiser, de les comprendre, de les traduire et de les retravailler, de les réinterpréter dans les contextes d'aujourd'hui, c'est notre tâche. C'est notre tâche de survie de cette civilisation. Et pour cela, il faut ouvrir des espaces où se rencontrent des Grecs, des Juifs, des Grecs de la Grèce aujourd'hui, mais aussi de connaisseurs de l'ancienne Grèce, du judaïsme et du christianisme, pour pouvoir ouvrir cette culture européenne à sa mémoire et à la mémoire des autres civilisations. Donc c'est avec cette ouverture-là et cette capacité de s'entendre et de se projeter par nos imaginaires dans les croyances des autres, que nous pouvons créer une civilisation et ne pas nous tenir uniquement à donner des réponses négatives à ceux qui cherchent l'infini ailleurs, mais de leur proposer notre manière de voir l'infini, nos passions. Alors, cette vision des choses, nous l'avons traduite au retour d'Assises. J'ai créé avec des humanistes femmes, mais aussi des rabbins, des imams et des prêtres catholiques, une société qui s'appelle Montesquieu. Nous voilà à Bordeaux, qui se réunit une fois par mois et on essaye de réfléchir sur des questions d'actualité, mais aussi sur des moments de la croyance, de rencontre avec l'infini dans les autres civilisations, etc. Et le sujet étant évidemment d'actualité, on essaye d'ouvrir un site, de venir des rencontres plus publiques, de manière à ce que ces conversations ne restent pas fermées. Et pour finir, je suis très contente de constater que votre mère a écrit sur Montesquieu et que, si tout va bien, peut-être la République peut s'ouvrir à la pensée de Montesquieu un jour, de manière précise et passionnelle.
Si vous me permettez, madame, vous avez fait allusion tout à l'heure à ce projet qui est mis en œuvre dans les montagnes du Texas, avec un financement du propriétaire d'Amazon. L'informaticien qui s'en occupe, c'est Danny Ellis. Et je trouve significatif que le projet auquel il travaille, c'est Clock of the Long Now.
Voilà, the Long Now,
absolument,
le grand maintenant.
Et il m'a semblé intéressant de relever que ce projet qui est mis en œuvre, ce grand maintenant, fait écho à ce que vous écrivez dans votre roman sur le maintenant.
Merci de votre lecture, oui, absolument. Oui, le maintenant est le moment de la passion pour moi, de la rencontre amoureuse. Ça nous renvoie à la. À une autre dimension qui est en fait essentielle, parce que si Nivier est capable de penser tout cela, parce que c'est qu'il y a ce maintenant. C'est le maintenant de la rencontre amoureuse. Tout le monde a été amoureux et tout le monde sait que quand deux personnes se rencontrent, il y a un instant qui devient infini, qui devient vertical. On est là, c'est un moment de passion, de compréhension. Je m'identifie avec toi, tu t'identifies avec moi, nos projets sont les mêmes et c'est cette exaltation qui enfle le moment présent qui fait que le maintenant devient un instant en expansion qui occupe tout le temps. Ça peut être la maladie des amoureux qui sont hors du temps, ils voient rien d'autre que leur instant enflé, mais ça peut être aussi une force. Avec la même passion, ils abordent tous les sujets et ils peuvent les mener à des nouvelles créativités. Donc, c'est cette notion du maintenant en expansion, du maintenant passionnel, du maintenant infini, est quelque chose qui a beaucoup intéressé les philosophes. Leibniz a trouvé cela dans sa conception de la monade. Il pense que chaque unité contient l'infini, et que vous ne pouvez pas être une unité si vous n'êtes pas habité par l'infini. C'est peut-être aussi la notion des chrétiens de l'incarnation. Dieu est homme et chaque homme est Dieu, parce que nous avons des infinies potentialités. C'est cette notion-là que moi je vais opposer aux ceux qui cherchent le djihad en coupant les têtes. Mais nous n'avons pas la force à l'éducation nationale et dans les médias d'abord à penser ce témoignage du passé qui est le nôtre de l'Europe, et de l'habiller sous une forme transmissible. Et aussi, cette habitation du présent, de l'infini dans l'instant, a été vécue, je pense, dans les moments de création. Proust, dans certaines de ses pages, parle de ce temps retrouvé, où dans un instant, tout le passé et tout l'avenir se condensent. C'est l'état d'illumination. On n'a pas besoin d'être croyant pour avoir ça, Proust le montre. Mais les mystiques l'ont également. Et dans mon livre sur Thérèse d'Avila, parce que je me suis beaucoup intéressée à l'expérience mystique chrétienne, je trouve cette, ce voyage de la, Thérèse au fond d'elle-même, qu'est-ce qu'elle rencontre au fond du fond, parce qu'elle imagine que son intériorité est faite de 7 étages et au 7e, à la 7e demeure, au 7e stade, elle rencontre l'infini. Et on lui dit, mais vous êtes folle, Dieu est en vous, on va vous brûler. Donc elle était conduite jusqu'à quasiment, on l'a sauvée heureusement, mais l'Inquisition a dû s'occuper de son cas. Eh bien, Leibniz, en lisant, parce qu'il vient après elle, cette perception qu'elle avait, à savoir que l'infini est en elle, que ses maintenant sont dans expansion vers l'humanité entière et toute l'histoire de l'humanité, eh bien, il a dit... Il y a une moniale qui m'a précédée dans la découverte du calcul infinitésimal, ce qui est extrêmement intéressant comme rencontre entre deux grands moments de la pensée européenne. Mais voilà, c'est cette notion du maintenant qui est infini, qui est quelque chose qui habite... l'être humain quand il est dans un moment de créativité et qui le rend capable de mobiliser toutes ses forces pour rencontrer de nouveaux objets, pour en faire de nouvelles inventions. Il est évident qu'au moment des Lumières, nous avons eu ces tâtonnements pour repérer cette dimension qui est dans l'être humain. Nous les avons laissés en arrière-plan dans les archives. Et nous avons pris en compte le matérialisme immédiat, la réalisation, ce qui est très bien, donner à manger à tout le monde, donner des droits à tout le monde. Il faut continuer dans cette dimension. Et il faut cibler les abus de la religion qui nous prend la tête avec l'infini et qui abuse la liberté sexuelle, la liberté entre l'homme et la femme, qui ne sont pas données, etc. Mais nous n'avons pas suffisamment rendu à César ce qui est à César, c'est-à-dire de reconnaître ce besoin d'infini, ce besoin qu'on appelle aussi le besoin de croire, qui est essentiel à la dimension psychique et que Freud vient nous faire reconnaître et que nous essayons de donner de manière modeste et à chaque fois précise à nos patients. Mais c'est cette dimension-là qui me semble être aussi à l'ordre du jour quand je dis que les Lumières ne sont pas achevées, elles ne pourront jamais être achevées, mais peut-être le moment est venu de donner à la pensée laïque cette dimension-là, cet enchantement-là.
Si vous m'accordez, madame, une remarque, dans votre lecture des Lumières, il me semble que vous mettez l'accent sur ce que j'appellerais, avec mes mots, un point de tangence qui est profondément métaphysique et qui permet aux spiritualistes et éventuellement aux matérialistes éclairés de se retrouver. Parce que, en fait, que ce soit par la force de la pensée ou bien les découvertes de la physique contemporaine aujourd'hui, Dieu, c'est le temps, c'est l'information, c'est vous et c'est moi, c'est ce que Spinoza précisément appelait natura naturans, c'est-à-dire aussi le processus par lequel la nature se naturalise ou est naturante. Bon, et je pense que on peut tout à fait souligner cela et réunir à la même table celui qui croit et celui qui ne croit pas dans la certitude qu'il y a une immanence et une immanence, je dirais, du sacré qui nous permet précisément de prendre en compte l'infini. Et il me semble, si vous me permettez, il me semble que c'est notamment ce que vous mettez en jeu dans de nombreuses pages de votre roman, mais par exemple... ne serait-ce qu'avec les skipites, si vous m'autorisez à une très courte lecture, quand vous écrivez à la fin du roman, dans la rue irisée de soleil qui longe le luxe, sous sa fenêtre, elle aperçoit une haie verte, la plus délicate qui soit, corde vibrante caressée par la brise, butinée par des nuées d'abeils. Au fond de ce tissu de fil transparent, à peine plus haut que la taille d'une fillette de 3 ans, un laurier rose. Unique, élancé, orné d'un feuillage lisse et vert foncé, couronné de pétales bouclés couleur cerise, qui s'ouvre à la lumière pure, la première lumière du monde. Et il me semble que cette première lumière du monde, si je vous comprends un peu, nous sommes en position de la voir continuellement, en permanence, tant que nous sommes là.
Oui, c'est un peu l'implicite de cette dernière page. Nivi se retrouve dans une dernière scène. Ah oui, parce qu'elle a un amant qui porte le nom de Passement, comme l'horloger, et qui est astrophysicien. Et pour les astrophysiciens aujourd'hui, quand ils sont en train de capter, comme vous savez, le Big Bang à 380 millions d'années, ce qui n'est rien par rapport au temps infini de l'univers, et ils sont en train d'écouter ce qui se passait même avant le fond cosmique. Parce que en captant ces ondes qui nous restent du Big Bang, on est à l'écoute de, on peut calculer une expansion infinie de l'univers et de mettre en question même l'idée qu'il y a eu un Big Bang un et seul. Je pense que ça se répète à l'infini, c'est une forme cyclique de recommencement de l'univers. Donc une infinité en recommencement, une expansion. Donc son astro, donc son amant, rentre d'une mission avec des engins très compliqués auxquels il calcule tout ça, et il lui parle de cette découverte, ils ont capté le fond cosmique primordial, et ils vont peut-être aller vers de nouvelles découvertes. Il est très exalté et elle comprend un peu sans comprendre vraiment, et elle se réfugie dans le feuillage des lauriers roses du Luxembourg, mais en fait ça lui rappelle son enfance, et donc dans son maintenant à elle, le cosmique et l'infantile se rencontrent, et elle regarde la lumière du Luxembourg et elle pense voir la première lumière du monde. Donc c'est cette espèce d'état d'expérience intérieure un peu mystique, un peu rêveuse, un peu régressive, dans le monde, hors du monde, un peu poétique, qu'elle se donne pour clore ses pérégrinations et les moments plus durs, les moments plus exaltés, dans une sorte de sérénité.
Votre roman est fort bien documenté du point de vue de la physique contemporaine, oui. Et vous exprimez les choses d'une manière, je dirais, pédagogique, oui. Et qui n'entrave en aucune façon, oui, la lecture de la narration. Je me permets juste une chose. Les scientifiques considèrent que vraisemblablement le Big Bang est intervenu il y a 13,82 milliards d'années-lumière, et donc les ondes qui nous parviennent, ces ondes fossiles, les plus anciennes, nous les avons captées avec le satellite Planck.
Planck, oui.
C'est tout récent, c'est un satellite européen. Oui. C'est Planck qui a permis donc de trouver, de capter, oui, le terme adéquat, c'est de capter des ondes qui ont 380 000 oui, ans de moins, oui, que l'âge du Big Bang. C'est donc le rayonnement le plus ancien. Bon. Et si vous en êtes d'accord, peut-être je vous poserai une dernière question. Il me semble que dans le rapport qu'il y a entre votre héroïne Nivi et son amant Théo, il y a en permanence quelque chose qui touche à la liberté. Mmh. Et cela me paraît absolument fondamental, dans la mesure où le lien qui unit cet homme et cette femme est un lien, je dirais, infini. Ils n'ont pas besoin d'être présents l'un à l'autre pour ressentir et vivre leur présence. Et ce lien extraordinaire ne brime en rien leur liberté.
Tout à fait. Oui, c'est une... j'ai tenu à faire cette suggestion sur la possibilité du lien amoureux aujourd'hui, parce qu'il m'a semblé que dans le grand débat sur le mariage pour tous, il manquait un approfondissement de la relation du couple hétérosexuel. On a beaucoup dit que, et bon, je suis d'accord, enfin, pourquoi ne pas autoriser, déculpabiliser, décriminaliser le mariage de même sexe? Je crois que beaucoup de citoyens européens, en tout cas, sont prêts à cela. Ce qui n'empêche pas que la grande majorité des êtres humains qui sont sur cette terre sont des mammifères qui vont se reproduire de la manière classique. Même si, là aussi, des changements énormes interviennent. Et y compris dans ce cadre-là, les mariages sont de plus en plus libres et recomposés. Et donc, je ne voulais pas faire une théorie sur tout ça, on le fait souvent, et je me suis prononcée là-dessus aussi avec les psychanalystes sur les nouvelles formes de parentalité, etc. Mais j'ai voulu suggérer dans le contexte que je vous évoque aujourd'hui, la mémoire de la France, l'infini en nous, l'expérience intérieure, je voulais mettre l'accent sur ce que les démocraties avancées nous permettent de vivre comme lien amoureux libre. À la fois on s'appartient et on est autonome. On a des autonomies qui peuvent nous conduire à des frustrations, à des souffrances, mais ça peut être aussi des moments de s'appartenir totalement et qui nous comblent d'une autre forme d'infinité, à travers les distances et dans une confiance donnée par quoi ? Parce qu'on a les mêmes intérêts, les mêmes objets d'investissement, les mêmes croyances, sur lesquels on peut ne pas être d'accord, on peut discuter, mais ça nous tient debout ensemble. Et c'est debout, différent ensemble, que j'ai essayé de mettre en scène dans la relation entre Nivi et Théo. Et les psys, elles travaillent dans le microcosme, enfin, petites histoires, qu'est-ce qui m'est arrivé, mon enfant, mon amant, mon ventre, etc. Et lui, il est dans les étoiles, les cosmos. Ils se comprennent, ils se lisent. En même temps, ils ont les mêmes intérêts pour Émilie du Châtelet, pour l'histoire de France, pour les Lumières, pour la liberté. Et à partir de là, un dialogue, un contact reste permanent à travers les SMS. Et même s'il est dans Hubble et Planck, elle est elle, dans son bureau, dans son journal, ça. Quelle que soit l'hétérogénéité dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et avec les moyens de communication, cela renforce aussi la communion entre des singuliers incommensurables. Nous sommes tous des singuliers incommensurables. Homo, hétéro, qu'est-ce qu'il y a, trans, bi, machin, tout, et plus encore, chacun, chaque sexe, moi je dis, est singulier. Mon livre sur le génie féminin se termine par le fait que chacun construit son sexe avec un mélange de féminin, de masculin, d'infantile, d'infantile, de neutre. Et c'est cette singularité, une femme, elle, et une femme, elle, ne sont pas le même féminin. Il y a une singularité dans chaque féminin, il y a une singularité dans chaque masculin. Nous séparer en deux boîtes de conserve, hommes et femmes, ce n'est pas vrai. Cette singularité n'est pas tenue en compte quand on fait ces distinctions-là. Eh bien, pour rendre compte et pour permettre à cette liberté à laquelle nous invite l'esprit des Lumières à se développer dans la créativité, il faut accentuer cette singularité. Et quand on a ces singularités-là, forcément, les rencontres amoureuses sont plus difficiles, plus distanciées, pas sur les mêmes paramètres que nos parents et grands-parents. On ne fait peut-être pas des enfants, peut-être qu'on les fait autrement, mais ça se fait aussi ou ça ne se fait pas. Et ces singularités sont capables de beaucoup de bonheur et de beaucoup, beaucoup de communion. Voilà ce que ces deux personnages essayent de montrer.
Vous m'invitez à dire à l'assistance que, de mon point de vue, en tant que psychanalyste, vous êtes de celles et de ceux qui insistent énormément et à bon droit sur la bisexualité psychique. Et j'ai envie de vous citer à propos d'un couple hétérosexuel, un couple qui réussit, c'est toujours un ménage à quatre, dans la mesure où ma part de féminin n'est pas le féminin de l'autre et la part de masculin de l'autre n'est pas mon masculin. Et vous le démontrez dans tous vos livres avec beaucoup de finesse et de justesse. Je crois que c'est aussi la reconnaissance de cette bisexualité psychique politique qui permet de fonder la liberté telle que vous l'esquissez et peignez dans vos livres.
Et c'est peut-être cette manière de voir les choses et à travers la mise en scène romanesque de Théo et de Nivi que je dis davantage sur le plan sensoriel que ce que nous disons avec Philippe Solers dans le livre que vous avez aussi sur la table et qui dit les choses, les mêmes choses, mais d'une manière peut-être parfois plus personnelle, même si elle est discrète, et parfois plus philosophique.
Généralement, enfin, je me permets, avec infiniment de précautions, il me semble que dans ce livre du mariage considéré comme un des beaux-arts qui vient de paraître...
Oui, qui est après le roman, oui.
C'est là aussi un livre de dialogue.
Oui.
Et je trouve très intéressant de voir comment les romans, les essais, les textes co-signés,
oui.
En fait, dialoguent en permanence. Et ce n'est pas nouveau, cela fait... 40 voilà. années que les choses se passent ainsi. Chacun a son œuvre et en même temps, il y a une conversation continue et nous pouvons, nous, lecteurs, la suivre de livre en livre. Madame, je crois que le temps de notre entretien, de la rencontre avec le public bordelais va s'achever. Si vous en êtes d'accord, pour moi, c'est une manière, en fait, de vous laisser le dernier mot. Il y aurait... quelques lignes de votre roman que j'aimerais lire en vous prêtant très modestement ma voix. Il s'agit de l'amant de Nivi, de Théo. Il ne suffit pas d'explorer le temps, ce qui revient à en souffrir. Les machines à explorer le temps sont des machines à souffrir. C'est bien connu depuis Proust ou encore H.G. Wells. Et les femmes le savent mieux que personne. Non, pas question de recommencer. Théo préfère décomposer le temps. Il prétend que ça peut s'oublier. Il s'en délivre. Son rire et le rayonnement de cette absence, l'onde du soupir. Merci, madame.
Merci à vous.